Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Bonjour et bienvenue dans Radio Foot. Et oui, Nabil Djellit, Annie Gasny est forfait aujourd'hui.
Ah bah il y a en fait il y a deux grands forfaits aujourd'hui. Nabil Fekir du côté de Lyon
et Annie Gasny de notre côté. Elle n'est même pas sur la feuille de match. C'est pas un choix de l'entraîneur.
Ouais.
C'est pas non plus une histoire de revalorisation du contrat. C'est juste un petit virus. Durée d'absence indéterminée. Et on espère qu'elle va reprendre bientôt son poste de titulaire. Dans ce studio, il n'y a que des gens en forme, à première vue, avec le sourire de ceux qui s'apprêtent à vivre une belle soirée de Ligue des Champions. Naïm Moniol d'Eurosport, bonjour Naïm.
Salut Christophe, salut à tous.
Nabil Djellit de France Football, bonjour Nabil.
Bonjour Christophe et bonjour à tous.
Salim Bongali de RMC Sport, bonjour Salim.
Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous.
Et nous accueillons Frédéric Piquion, bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais, par exemple.
Par exemple.
Ça tombe bien. On va faire appel à vos souvenirs dans un petit instant. Pour vous resituer, pour nos auditeurs, vous avez joué dans plusieurs clubs, alors notamment Monaco. Rafraîchissez-nous la mémoire.
Saint-Etienne,
Rennes.
Mon premier club en France a été Nîmes. Il faut le rappeler.
Oui.
Une super Ligue 1.
Et vous avez terminé plutôt à l'étranger.
J'ai terminé, oui, après je suis parti à l'étranger.
Et ton passage à Portsmouth, t'en parles un peu ou pas?
Finale de cup à Portsmouth, et après j'ai été dans un club où on joue en bleu et violet à West
Exactement.
Ham. 3 ans à West Ham, formidable.
Où il a fait rêver les gens.
Bon.
Une belle carrière.
Et vous comptez aussi une sélection d'équipe de France?
Heureusement une sélection.
Ouais.
Parce qu'il y en a qui auraient dit malheureusement une sélection. Mais
oui,
moi, je dis heureusement
exactement.
Une sélection.
Ouais. L'équipe de France.
Ouais.
Alors ce soir, 2/8 de finale aller de la Ligue des Champions. Lyon accueille Barcelone. Ce sera en direct sur RFI. Le Barça, grand favori bien sûr. Mais ces diables de Lyonnais n'ont pas peur des gros. Manchester City l'a remarqué en septembre dernier. Et les Barcelonais de Messi ne sont pas au mieux ces derniers temps. Alors les Lyonnais qu'on n'a pas vus à ce niveau européen depuis bien longtemps espère fêter ce retour avec éclat. L'autre affiche pourrait tout aussi bien être une finale de Ligue des Champions. Liverpool, finaliste d'ailleurs la saison dernière, reçoit le champion d'Allemagne, le Bayern Munich. Deux clubs aux trajectoires inversées dans leur championnat. Liverpool a commencé fort mais affaibli, alors que le Bayern, d'abord inquiétant, est sur la pente ascendante. On va voir ce que ça donne tout ça en Ligue des Champions. Radio Foot préparé avec David Finzel, Pierre Guérin, Laurent Salerno. Nous sommes ensemble pour 45 minutes plus le temps additionnel.
Se qualifier contre le Barça pour Lyon, ce sera très difficile. Mais se qualifier contre Lyon pour le Barça, ce sera aussi très difficile. Juninho. Dans la surface. Incroyable. 1-0. Ça chauffe devant le but. C'est but. Marquez est but. Eh oui, Thierry Henry égalise.
C'est fini.
C'est fini. Coup de sifflet final. Énorme 8e de finale aller entre Lyon et Barcelone.
Entre Lyon et Barcelone.
Henry a répondu à Juninho. Un partout, score final.
Lyon-Barcelone, 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Celui-là, c'était il y a 10 ans. Frédéric Piquion, vous étiez à l'OL à l'époque.
Ouais,
vous avez suivi ce match.
Du banc.
Du banc.
Oui.
Vous en avez un souvenir précis?
Bah, le précis, oui, c'est sûr. Bah, là, j'ai reconnu le but de Juni, hein. On savait, est-ce qu'il allait frapper directement? Bah, oui, parce que nous, on le connaissait.
Mm-hmm.
Et ça a surpris, en fait, toute cette défense de Barcelone où même Victor Valdés a été totalement lobé sur le but.
7e minute. Et puis après, l'égalisation de Thierry Henry.
Ça a été un 70-30, je crois. Quand même sur le match.
Ouais.
Ça a été quand même difficile, oui.
Ouais. Et au retour, encore plus.
Ah ouais, au retour.
5-2
pour le une sacrée rousse.
Pour le Barça, avec à l'époque du côté du FC Barcelone, Nabil, Thierry Henry qui avait marqué à l'aller, Messi, Eto'o.
Après, on a les souvenirs qu'on veut. Moi, je me souviens surtout de Nadir Belhadj sur le côté gauche.
Bon, c'est un angle.
Bah oui, ils avaient joué en 3-5-2 au retour, si je dis pas de bêtises, Lyon.
Est-ce que vous trouvez des points communs, Frédéric, entre l'OL de cette grande époque où
pas du tout.
chaque année il y avait les huitièmes de finale en Ligue des Champions au moins et l'équipe d'aujourd'hui.
Non, je pense non, c'est totalement différent. Je pense que l'équipe d'aujourd'hui, je dirais pas qu'elle est plus forte, je pense qu'elle est moins mature que celle d'il y a 10 ans, mm-hmm. tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une équipe jeune qui a besoin de grandir ensemble, qui montre énormément de belles choses, mais l'irrégularité qu'ils ont montré sur la saison montre que en fait ils ont une progression en fait qui est importante, et ce genre de match va leur permettre de progresser ensemble.
Alors on va s'y attarder longuement, mais d'abord on va prendre la direction de, pas encore tout à fait de Décines où le match aura lieu tout à l'heure, mais de Lyon où se trouve Olivier Pron. Bonjour Olivier.
Oui, vous êtes bien champion 104 à l'Hôtel des Artistes. Bonjour à tous.
On a raté le numéro, mais c'est pas grave. On va se renseigner. On vous retrouvera. Alors, match en direct en intégralité sur RFI en compagnie de Christophe Diremzian ce soir. Vous êtes à Lyon tous les deux depuis 24 heures. Un mot d'abord des conférences de presse, celle de l'OL, celle du Barça. Quelle est la tonalité? Respect pour l'adversaire, m'avez-vous dit?
Je précise que nous ne partageons pas la même chambre de 104, lui et moi. Hein. Chacun chez soi avec Monsieur Diremzian.
Vous faites bien comme
chauffeur.
Vous voulez.
La tonalité des conférences de presse, respect, c'est le mot qui me vient à l'esprit. D'un côté comme de l'autre, il y a été beaucoup question côté lyonnais, évidemment, d'un certain Lionel Messi, ce petit Argentin dont on parle beaucoup. On va voir ce que ça vaut ce soir. Voilà, on avait Oussem Aouar qui était là en compagnie de son entraîneur Bruno Genesio, qu'on a longuement entendu parler de l'Argentin et d'une manière si de l'empêcher de jouer. Compris qu'un Messi dans un grand soir, mais ça je crois qu'on le sait tous, peut gagner ce genre de match à lui tout seul. On verra s'il est dans un grand soir. En tout cas, ça a beaucoup tourné autour de lui, même dans le monde globalement aujourd'hui. On entend quand même beaucoup, beaucoup Messi. On voit beaucoup sa photo. Mais le maître mot de ses confs de presse a vraiment été respect, même du côté de Valverde ou de Busquets. On s'est surtout attaché, parce qu'il y avait beaucoup de questions, vous faisiez référence à cela tout à l'heure Christophe, la victoire à Manchester City, le match nul, bref, cette idée que Lyon croque les gros, y compris le Paris Saint-Germain en Ligue 1, et Busquets fort justement finalement a rappelé que tout ceci c'est le passé, la phase de poule c'est la phase de poule, la Ligue 1 c'est la Ligue 1, aujourd'hui, comme l'écrit notre confrère Vincent Duluc dans l'équipe, ici commence un autre football, c'est la phase à élimination directe.
Et les Lyonnais ils se sentent dans la peau de tout petit face à un géant d'Europe ou il croit à l'exploit.
Je pense que cette génération, et vous allez avoir l'occasion d'en reparler, je pense, avec tous vos invités, elle est insouciante. Alors, ça a marché en phase de poule. On rappelle que finalement, on a face à face ce soir les deux seules équipes invaincues dans cette Ligue des Champions. Lyon avait commencé par une victoire à Manchester City et enchaîné 5 matchs nuls. Ça a été un peu plus prolifique du côté du Barça, un peu plus de victoires. Mais voilà, les deux équipes sont invaincues. Et Lyon, non, n'est pas du tout dans la peau d'une victime. Cette équipe, encore une fois, elle est insouciante. C'est la jeunesse triomphante. On y va, allons-y, et on verra bien ce qui va se passer. On gère match après match. On n'a jamais entendu parler hier d'un bon match à faire ce soir en prévision du retour. Le retour, c'est dans 3 semaines, la qualification n'en parle pas. D'abord ce match-là, restez en vie.
Alors vous avez parlé de Lionel Messi, juste, est-ce que vraiment il y a beaucoup d'excitation autour de la venue de Lionel Messi à Lyon pour le retour en Coupe d'Europe, en Ligue des Champions en tout cas?
Oui, c'est vrai que les Lyonnais, ça faisait 7 ans quand même qu'ils n'étaient pas venus à ce rendez-vous-là. On rappelle que Barcelone, c'est juste la 15e fois, 15e année de rang qu'ils se qualifient pour les 8e de finale. Ils se sont qualifiés 12 fois sur 14. On va pas revenir sur les palmarès. C'est vrai que Lyon n'était pas venu depuis 7 ans, on l'a dit. Messi lui-même, ça n'est pas une nouveauté à Lyon. Il est déjà venu à 3 reprises. C'est une équipe qu'il affectionne hein, puisque il a marqué 3 buts en 4 matchs face au Lyon à Lyon dans le passé face aux Lyonnais. Donc voilà, c'est l'homme en forme hein, les statistiques sont là, il a marqué 6 buts en Ligue des Champions, 8 buts en 26 matchs depuis le début de saison, donc forcément ça fascine. On a rencontré hier dans le train même des supporters lyonnais qui disaient, mais bien sûr, on aime notre équipe, mais en même temps, venir voir jouer Messi, quand même pas mal. Alors, on peut pas dire que leur cœur balance, ils voudraient voir Lyon créer l'exploit. Mais voir Messi jouer, c'est pas mal aussi.
Ouais, c'est bien. Eh bien, écoutez, on vous souhaite une bonne soirée et on la souhaite aussi à tout le monde. Alors, messieurs, autour de la table dans ce studio, ce retour, ce grand retour des soirées européennes à Lyon, quelle est pour vous la position de l'Olympique Lyonnais, eux qui sont parvenus à sortir de leur groupe, certes sur le dernier match contre le Shakhtar Donetsk, mais finalement ils ont rempli le contrat. Naïm.
Oui, c'est contrat rempli. De toute façon, tirage au sort, on les voyait forcément derrière City, et l'exploit qui a été fait là-bas n'a que conforté leur place. Ils sont évidemment outsiders, ils ont absolument rien à perdre, parce que même si t'es à domicile, même si t'as battu City et Paris, si tu perds contre Barcelone, c'est normal, vu l'écart de niveau individuel collectif. Donc ils sont dans une bonne position qui leur sied bien. Lyon est toujours bon contre les gros, même s'ils gagnent pas. Le match retour contre City en est la preuve. Donc ils ne peuvent que créer l'exploit, marquer les esprits individuellement, collectivement, faire taire certaines personnes qui les annoncent déjà soit battues d'avance, soit trop immatures, et puis conforter certains statuts de joueurs individuels. On pense à même Fils de Paille qui a eu des déclarations dernièrement, moi je veux jouer dans un gros club. Beaucoup de petits jeunes qu'on annonce à droite à gauche dans des grands clubs, voilà. Donc ils ne peuvent que marquer les esprits dans le bon sens du terme, et c'est la meilleure place possible.
Nabil.
C'est l'équipe la plus impronosticable de Lyon, France et peut-être d'Europe. Ouais. Qui aurait mis une pièce sur Lyon face à Manchester City? Alors, je veux bien qu'il y ait eu de la suffisance du côté de Manchester City sur ce match-là, mais il y a aussi des qualités du côté de Lyon. Moi, Lyon, c'est une affaire d'émotion. C'est une équipe qui donne du plaisir. Le Paris Saint-Germain, j'attends des résultats parce qu'elle est armée, elle est outillée pour aller au bout. Lyon, c'est une équipe que je trouve spectaculaire, et quelque part, même si effectivement le FC Barcelone semble intouchable, peut-être moins intouchable qu'il y a quelques saisons pour X raisons, mais on va pas débattre de l'évolution du FC Barcelone. Ici, moi, je trouve que c'est deux équipes miroirs. Alors certes, il y a Messi qui les départage. Encore que le Messi de Lyon, entre guillemets, même s'il faut pas faire de comparaison, et c'est bien dommage qu'il soit pas là parce que j'aurais aimé voir Fekir sur ce match-là. C'est deux équipes qui se ressemblent un peu quelque part, deux équipes miroirs qui sont joueuses et qui sont en difficulté à la perte du ballon. Ce soir, il y aura des faiblesses à exploiter, mais je suis incapable, mon cher Christophe, de vous dire ce qui va se passer.
Salim.
En Ligue des Champions, j'insiste bien sur la Ligue des Champions, Lyon me fait un peu penser à Tottenham. Je parle en termes d'émotion, c'était le terme utilisé par Nabil il y a quelques instants. Même si chez les Spurs, il y a peut-être un peu plus de garantie, notamment on l'a eu lors du match face à Dortmund la semaine passée. Mais oui, c'est vrai qu'en termes d'émotion, en termes d'attaque, parce que quand même, on a des joueurs offensivement parlant qui l'ont démontré lors de la première phase, qui sont quand même à un certain niveau. Memphis, on en a parlé. Bertrand Traoré, quand il veut, dans les grands matchs. Cornet même, également.
Oui, mais voilà.
Bref, offensivement, cette équipe de Lyon est intéressante. Après, c'est défensivement, ou peut-être qu'on peut se poser des questions, parce qu'on l'a vu.
Elle assume un déséquilibre, c'est aussi ça, c'est soit t'enlèves un attaque.
Ça dépend du système de jeu aussi.
Ouais. Dans le prolongement de ce que dit Salim, il y a quand même une différence pour moi dans les deux secteurs offensifs, même si Lyon marque des buts et est capable de donner de l'émotion.
C'est pas Messi par hasard, non?
Non, pas uniquement, c'est que il y a une régularité dans les performances des attaquants barcelonais. À Lyon, personne n'est était capable de dire que Maxwell Cornet serait meilleur buteur de la phase de poule, mais c'est juste improbable. Bertrand Traoré, qu'on voit gâcher beaucoup de ballons en Ligue 1, s'est montré décisif. Dembélé également, qui n'a pas un temps de jeu faramineux. Donc là où on attendait peut-être plus Fekir et Depay, on s'est plus retrouvé avec du Dembélé et du Cornet, ce qui est très bien pour Lyon. La preuve, ils sont en huitième de finale. Mais ça aussi, c'est un facteur. C'est que, est-ce que Cornet va être capable de reproduire ça deux mois après? Il y a une coupure entre décembre et aujourd'hui. Dans quel état d'esprit? Il y a un mercato un peu houleux de son côté qui est passé. Il devait partir, il est resté. Il a digéré ça. Même Fils de Paille, il y a des déclarations qui lui mettent une pression forcément. Donc ça aussi, ça va être la différence avec Barcelone, qui est complètement, on me dit, ils sont irréguliers, ils prennent des buts, ils sont moins bons. Je veux bien, quand on est leader du meilleur championnat du monde avec 8 points d'avance sur le deuxième et qu'on marque en moyenne 3 buts par match, on a quand même des grosses qualités. Et ces qualités-là, aucun autre club en Europe les a.
Frédéric Piquion, vous misez sur quel attaquant? Vous, c'est un match pour Depaille, celui-là, ou pour la continuité du niveau de performance de Cornet? Vous
non,
voyez
moi,
ça comment?
Moi, je mise surtout sur l'aspect collectif. Je pense que c'est sur ça que Lyon va jouer ce soir. Et ça va dépendre aussi du système de jeu auquel toute cette animation offensive va s'articuler. Alors, est-ce qu'on va jouer avec 3 attaquants? Est-ce qu'il va jouer avec un Dembélé un peu plus haut et un joueur en dessous de lui? Moi, je pense que ça serait la meilleure solution, avoir peut-être un Depay en dessous d'un Dembélé et d'avoir peut-être des ailiers. Mais voilà, je pense que c'est surtout sur ce plan collectif que Lyon va devoir être bien meilleur.
Moi, j'espère qu'il y aura quatre offensifs parce que, franchement, et tant qu'à faire, tout donner, ne pas faire de calcul d'apothicaire. La seule manière de s'en sortir pour Lyon, c'est de faire une différence sur le match aller. Si Lyon sort le FC Barcelone, c'est un exploit. Donc, ouais, les choses soient bien claires. Non, je veux dire, voilà. Donc, soit, je pense pas que c'est une équipe que, je sais pas ce que t'en penses, toi, Fred. C'est pas une équipe qui sait gérer, ça. Lyon.
Non, justement, bon, on l'a vu contre Manchester City, quand ils sont arrivés, ils ont mis le pied au plancher, et on le voit quand ils sont poussés aussi par le public, qu'ils peuvent faire de très très grandes choses. Et offensivement, franchement, il y a des joueurs quand même de très très bonne qualité. Même si au jour soir, Nabil Fekir n'est pas là, mais derrière, franchement, il y a quand même de la qualité.
Ce qui va quand même faire falloir par rapport à la phase de poule, c'est que certains joueurs assument leur statut de cadre, de leader. On parle de l'absence de Fekir qui a peut-être par moment fait défaut dans ce domaine en première partie de saison, mais là je pense surtout à Lopez qui lui tient toujours son rang. Je pense à Denayer, à Marcelo. Il va falloir que certains, à même fils de paille, à un moment donné,
Marcelo,
faut les poser.
Pas qu'il croise Messi,
hein. À un moment donné, quand même falloir s'imposer dans ce domaine, parce que c'est peut-être aussi ce qui expliquait les mauvais résultats face au Shakhtar et face à Hoffenheim, parce que footballistiquement Lyon était au-dessus, mais n'arrivait jamais à maintenir un certain niveau. Prenait des buts quand il menait, était obligé de se mettre minable sur 20 minutes pour pouvoir rattraper, réussir à rééquilibrer des matchs qui dominaient pourtant. Ça va falloir assurer. Tout à l'heure, Fred disait, il y a 10 ans, on avait Juninho. Ce joueur-là, vous l'avez pas cette année. Cette génération ne l'a pas. Donc là, il va falloir aussi qu'on voit des leaders, mais pas uniquement sur le terrain, des leaders d'hommes, des vrais bonhommes.
Fred évoquait une composition d'équipe avec pourquoi pas un Dembélé qui serait devant Depay, qui serait par exemple derrière lui. C'est là où Depay va devoir effectivement prendre ce rôle de leader, surtout s'il est positionné ainsi, non pas en pointe, mais derrière un attaquant.
Parce qu'en plus, lui, il s'est foutu quand même une drôle de pression avec ses déclarations dernièrement. Ouais, dire, moi, je vais aller dans un gros club, et il a donné des noms. Il y avait le Barça dedans. C'est donc c'est bien beau, 3 semaines avant 8e de finale, de dire, exactement, moi, j'aimerais bien aller jouer chez l'adversaire parce que c'est plus fort. À un moment donné, faut le montrer. C'est sur ce match-là, c'est pas contre Guingamp ou contre Amiens.
Et voilà, moi, et c'est là où il sera attendu.
Ouais, enfin, moi, après, Depay, je trouve que c'est un personnage. Je pense que la pression, ça glisse sur lui. C'est un peu l'histoire de sa carrière. Il y a une forme de folie qui fait partie du personnage. Toute proportion gardée, Saint-Maximin, c'est un peu pareil. C'est des gars, ils sont pas calibrés.
Mais je suis d'accord.
Comme nous, en fait.
Même, je suis d'accord. Effectivement, lui, je pense que, comme vous le dites, effectivement, la pression, il s'en fiche. Mais le problème, c'est qu'il a dit des choses et désormais, les gens l'attendent. Et il doit répondre quand même.
Mais c'est ce qu'il fait quand il balance ce genre de déclaration. Oui, qu'est-ce qu'il cherche finalement
Il cherche à se montrer et puis il cherche surtout à se dire que vous inquiétez pas, je serai là au match contre Barcelone.
Moi, le panache, très sincèrement, ça me dérange pas. Je trouve que on est trop souvent à entendre des choses.
Une langue de bois, en tout cas.
Pardon, lui, il sait qu'il est très fort. T'as raison. Les seniors, les grands seniors, ils ont rendez-vous dans les grands matchs. Il a un rendez-vous ce soir. Mais par ailleurs, ça l'a pas empêché sur d'autres circonstances, récemment avec les Pays-Bas ou sur d'autres gros matchs, de quand même répondre présent et montrer des grosses qualités. Mais c'est vrai, là, ça ressemble à une heure de vérité. Mais maintenant, si Memphis Depay passe à côté ce soir, bon, il va se faire un peu chambrer, mais quelque part, c'est Barcelone derrière. Je veux dire, c'est Barcelone en face. Il s'est pas déchiré face au FC Ball.
Oui, non, mais c'est pour ça. Après, il pourra plus dire, j'ai le niveau d'aller à Barcelone. Si tu te déchires là, non, t'as pas le niveau en fait d'aller à Barcelone.
Bah, ça dépend dans quelle animation t'es. Si tu prends Memphis Depay et tu le mets à Barcelone à la place de Prince Kevin Boateng le week-end dernier face à Valladolid, je pense qu'il peut jouer.
Bah oui, c'est clair.
Je pense que Fred Pekiel encore pourrait jouer, peut-être. Hein.
Tout le monde peut jouer, même Mitroglou, et je le dis à cette antenne.
Alors, on va se pencher sur cet adversaire barcelonais qui est actuellement quand même en tête de la Liga, qui est toujours... Oui, effectivement.
Mine de rien.
Ouais.
7 points d'avance sur le deuxième.
Non, mais je dis quand même, parce que Naïm, tout le monde, il y a cette petite musique actuellement qui dit que le Barça n'est pas dans la meilleure période de sa saison.
Vous imaginez quand ils sont moins bien, Bien. Ils ont que 7 points d'avance.
Alors jusqu'à 3 buts par match,
c'est un peu moins. Parce que si on dit ça du Barça, on dit quoi du Real qui vient de perdre encore ce week-end? Enfin, à un moment donné.
Alors, est-ce que moins bien, c'est prenable?
Non, moins bien, ça veut pas dire prenable. Moins bien, ça veut dire physiquement surtout. On voit que surtout sur les deux, trois derniers matchs quand même, on voit que physiquement ils ont souffert et qu'il y a certains joueurs qui sont en baisse physiquement. Mais est-ce que c'est parce que ils attendaient justement ce match de Ligue des Champions pour reprendre un petit peu leur capacité, ou alors vraiment ils ont une baisse physique et que on attend par exemple sur un Dembélé sur des matchs comme ça parce que Messi est moins bien physiquement, parce que Suarez est moins bien physiquement, mais on sait qu'avec leur expérience à ces deux seuls joueurs, ça peut faire la différence.
Et puis il y a quand même un truc par rapport au Barça de l'année dernière de Valverde, c'est que il y avait un chien au milieu, c'était Paulinho, c'était pas le plus beau joueur de foot, mais lui était capable de détruire n'importe qui en face. Cette année, quand vous avez Rakitic, Busquets, Arthur, parfois Coutinho quand il est remis plus bas, vous avez des super joueurs de ballon, très élégants, très techniques, capables de battre n'importe qui, mais vous n'avez pas un chien à la perte du ballon qui va les taper.
Normalement, ça aurait pu être Vidal quand même.
Normalement, mais c'est pas le cas. Il n'assume pas ce statut. Et je pense aussi que ça fait cruellement défaut au Barça, qu'il n'y a pas ce joueur capable de faire mal à l'adversaire, presque parfois dans le mauvais sens du terme, pour empêcher les remontées de balles de l'adversaire. Et c'est vrai qu'il y a des buts en moins, mais Umtiti a joué combien de matchs cette année? Il a quand même très peu joué finalement. Il y a toujours eu ce problème de la charnière centrale à Barcelone, qui à côté de Busquets, l'anglais tire un peu la corde sur lui, mais pour l'instant l'anglais c'est pas Umtiti. Vermeulen est quand même très décevant, en plus il joue une fois de temps en temps. Donc ça aussi c'est peut-être la faiblesse à la perte du ballon de ce Barça, c'est dans l'axe, comment on va aller récupérer le ballon, comment on va ne pas être trop exposé à la charnière centrale. Pour le reste, moi je veux bien qu'on me dise que c'est moins bien, mais je le répète, vous êtes leader en Espagne, 7 points d'avance sur le deuxième, vous collez 3 buts par match, vous avez Messi qui marque plus à 30 ans qu'à 25. Moi je veux bien, oui, ils sont prenables, mais c'est le voilà.
Nabil, moi franchement, mis à part Messi qui est pour moi insoluble, qui est une équation, s'il décide de gagner le match.
Il en est, je crois, à 30 buts en 30 matchs.
S'il décide de gagner le match, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, il le gagnera. Alors parfois il le décide avec l'Argentine, mais c'est pas pareil. Moi je crois que même si le FC Barcelone reste, je pense que c'est une équipe qui est en transition générationnelle, qui est moins forte dans l'absolu pour différentes raisons. Ce soir, j'espère qu'ils vont couper Busquets, parce que si tu le harcèles, si tu le pourris, je pense qu'elle peut mettre cette équipe du FC Barcelone
C'est là où Ndombele, on l'attend,
voilà,
ce genre de joueur
en difficulté. C'est un joueur qui est quand même monorythme, qui est parfois prévisible. Attention, je suis pas en train de vous expliquer que c'est une arnaque, hein. Que les choses soient bien claires, c'est un joueur absolument exceptionnel. Ouais. Mais je donne un exemple, Marquinhos, il a neutralisé Pogba. Est-ce qu'il y aura un plan? Moi je pense que celui qu'il faut, parce que Messi, il n'y a pas de plan. Si Messi, ça n'existe pas, tout le monde y réfléchit, il n'y a pas de solution. S'il y a un garçon qu'il faut, à mon avis, mettre sous pression ce soir, c'est Busquets. C'est une équipe où il y a de plus en plus de trentenaires. Alors, il prépare l'avenir avec des De Jong et tout ça qui arrivent, et d'autres noms qui circulent. Mais c'est quand même une équipe où il y a beaucoup de trentenaires. Et je suis désolé, sur les côtés, alors ça se trouve, ils vont gagner 3-0 ce soir et que je suis en train de prêcher pour rien, c'est mais dur. Sur les côtés, dans la profondeur, elle reste quand même prenable. Et c'est là où on attend Bertrand Traoré. J'espère qu'il sera Burkina facile face à Jordi Alba. Et puis de l'autre côté, Cornet également, qui est un garçon qui a des courses et du volume.
C'est exactement
tu
ça.
Tu l'as préparé celle-là.
Non, c'est exactement ça,
Nabil. C'est qu'on a vu aussi sur les buts que prennent Barcelone, beaucoup, c'est au niveau de la relance et au niveau du pressing de l'équipe adverse. C'est-à-dire que dès que Busquets ou un autre joueur venait dans l'axe du terrain récupérer un ballon, s'il y a quelqu'un tout de suite à cette récupération qui est assez haute et qui arrive à récupérer le ballon et surtout après ne pas la perdre rapidement, et c'est là que justement le Barça est vulnérable et ils ont pris énormément de buts. Enfin, les derniers buts qu'ils ont pris, ça venait de là.
Alors la question que vous avez amenée délicatement, Nabil,
la délicatesse, c'est pas quelque chose qui me caractérise.
Le fameux plan, quand même.
Libre de vos propos.
Inconsciemment peut-être alors. le plan anti-Messi. La question a été posée à Bruno Genesio. On écoute sa réponse.
La réponse du marquage individuel face à Messi, elle est pour moi obsolète. Puisque face à un tel joueur, à un moment donné, il trouvera la solution. Le fait d'avoir de la densité autour de lui, oui, je pense que ça peut réduire son influence, même si on sait que lorsqu'il est dans un grand soir, même avec de la densité, il est capable de voir des choses que personne d'autre ne voit et de réaliser des choses que personne d'autre ne fait. Oui, ça sera dans ce sens-là qu'on mettra en place quelque chose pour limiter son influence dans le jeu.
Voilà, de la densité autour de lui. Bon, il est réaliste. Hein.
La densité, ça veut dire être le cadré au maximum avec deux, trois joueurs
sauf que
le troisième qui est un petit peu en couverture, mais en tout cas, qui a au moins deux joueurs sur lui.
Après, les prises à 2 à 3 sur Messi, c'est bien gentil, c'est très risqué parce que ça libère quand même un peu d'espace pour les mecs autour.
Les joueurs que vous libérez, c'est pas des joueurs lambda, quoi.
Je veux bien qu'on laisse de l'espace à Suarez, à Jordi Alba et compagnie en disant c'est bon, c'est pas Messi. Ouais, mais c'est Suarez et Alba quand même, c'est que t'en as un qui plante des buts et l'autre qui est peut-être le meilleur centreur du monde.
Mais David Finzel me rappelle cet épisode du match de Kimpembe contre Messi. C'est un exemple à suivre ou pas?
Oui, c'est un exemple.
C'est reproductible. Ouais.
Il a juste été agressif sur Messi. À chaque fois qu'il prenait le ballon, il l'empêchait de se retourner. Il a été quand il fallait faire faute, il a fait faute. Quand il fallait récupérer le ballon, il était présent, tout simplement. Je pense que c'est, oui, il faut prendre l'exemple là-dessus.
Quel pourrait être le rôle de Ferland Mendy ce soir?
Se faire remarquer pour signer au FC Barcelone.
Abidal, il l'a déjà mis son aile, il a déjà appelé. Moi, à mon avis, c'est déjà pratiquement fait.
Ouais. Non, mais l'idée, quand on dit de plonger derrière les latéraux pour essayer de trouver de l'espace et de centrer, Ferland Mendy, on va beaucoup l'attendre là-dessus, parce que Raphaël, il le fait aussi à droite, mais il est quand même plus vieux et surtout moins rapide. Il a moins de puissance, donc Ferland Mendy, on l'attend là-dessus. Sa qualité de centre, son soutien aussi pour venir un petit peu amener au ballon, rentrer à l'intérieur, amener un soutien à Ndombele, à voir, parce que deux milieux face à Barcelone, si il joue en 4-2-3, sachant que Depay, il revient quand même pas des masses défendre, c'est-à-dire que lui, il va quand même falloir qu'il rentre un peu dans l'axe pour amener du soutien, donc on l'attend beaucoup là-dessus. Après, Nabil a raison, il fait partie des joueurs qu'on suit énormément, et il aura à cœur de se montrer. Bon, il n'y a pas que lui, Aouar, Ndombele,
le duo là,
c'est un peu comme les mecs de l'Ajax contre le Real,
voilà, c'est ça, l'entretien d'embauche. La comparaison, elle est bonne, il faut que Lyon reproduise ce qu'a fait l'Ajax face au Real, peut-être pas avec le même score, éventuellement, mais c'est ça dans l'esprit. Dans l'esprit, c'est de mettre de la vitesse, du mouvement. Moi, je parlais tout à l'heure, et c'est vrai que je vous ai vu un peu tiquer, presque me féliciter de le dire, de l'âge qui devient un peu canonique pour certains. Non, mais attends, il y a plus de 6 trentenaires dans cette équipe de FC Barcelone. Je suis pas en train de dire que les trentenaires, c'est pas opérationnel au niveau, mais il y a un moment, ça joue quand même en termes d'intensité, en termes de course, et puis en termes, j'ai faim ou j'ai pas faim. Ceux qui doivent avoir faim ce soir. Moi, si je suis lyonnais, c'est moi qui ai la dalle ce soir. Barcelone, ils se gavent depuis X années. Alors même, c'est vrai que ça fait un moment qu'ils ont pas pris la
Ligue des Champions. 3 ans qu'ils voient le Real l'avoir devant eux. Là, je pense qu'ils ont quand même la dalle.
Mais là, c'est le match de ta vie, là. Je veux dire, c'est le match d'une génération. Parce que la moitié de cette équipe, ou un tiers de cette équipe, la saison prochaine, elle est programmée pour ne plus être là. Sauf si Jean-Michel Aulas décide de gagner la Ligue des Champions, prolonge les contrats avec des revalorisations salariales incroyables. Mais c'est le match de cette génération.
Pardon quand même Nabil, mais il y a 3 mois à peine, lorsque Barcelone, donc le même âge au final, va faire une démonstration à Tottenham, c'est les mêmes mecs qui ont le même âge, donc qui vont faire une démonstration à Tottenham.
Mais c'est surcoté.
Alors vous allez me dire, c'est une phase de poule, etc. Mais ça prouve quand même la qualité de cette équipe de Barcelone, et face à des grands noms, face à des grands joueurs, Kane, Lucas qui avait fait un grand match et autres, on arrive
on va pas se raconter d'histoire. On cherche des motifs d'y croire. Et ils existent. Mais évidemment, même si c'est plus le Barcelone de Xavi, Iniesta, même si ils n'ont toujours pas remplacé Neymar.
En fait, je pense que c'est ça le problème.
C'est une équipe qui est un peu moins forte. Elle dépend encore plus de Messi.
Disons, pour refaire allusion à cette époque d'il y a 10 ans, on en parlait tout à l'heure avec Frédéric Piquiod, que l'écart à l'époque était abyssal. Aujourd'hui, il est très en forme. Et aujourd'hui, l'écart est peut-être un petit peu plus faible. Entre les deux équipes.
Il est peut-être moins impressionnant, mais en fait, le problème est là, c'est que ça fait 10 ans qu'on compare le Barcelone au Barcelone de Guardiola. C'est-à-dire que le Barcelone de Tata Martino, le Barcelone de Luis Enrique, qui a à chaque fois gagné des titres, qui a à chaque fois fait des doublés, des triplés, des quintuplés, gagné la Ligue des Champions, la Liga, chaque fois on a comparé, et celui de Valverde encore plus, à Guardiola, c'est-à-dire gagner en jouant bien. C'est évidemment très bien de gagner en jouant bien, mais aujourd'hui, qui gagne en jouant bien? Aujourd'hui,
l'équipe de France au mondial.
Soit on joue, tu gagnes. Les mecs gagnent. Aujourd'hui, Valverde, ce qu'il veut, c'est gagner. Moi, quand on critique le Barça en disant, ouais, il est quand même moins fort qu'une époque. Effectivement, il y a des trentenaires. Mais regardez leurs statistiques. Messi, il a jamais autant marqué que cette année. Suarez, il a 15 buts, 5 passes D. Piqué, s'il est encore aussi Busquets, c'est encore décisif. Rakitic, qui est pas loin d'avoir 30 ans, il est aussi décisif. Donc, ces joueurs-là restent les meilleurs, quasiment les meilleurs, voire les meilleurs à leur poste, malgré leur âge. Et quand bien même, collectivement, ça serait moins beau à regarder qu'il y a 10 ans, ça reste tout aussi efficace.
Ça reste tout aussi efficace, mais ça ne gagne pas à l'extérieur dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions depuis 3 ans et cette victoire à Arsenal. Donc c'est peut-être l'ouverture au moins pour le match aller pour les Lyonnais ce soir, histoire d'entretenir le suspense.
Ouais, non, ce qu'on espère, c'est que ça soit pas plié à l'aller. Ce qu'on veut, c'est une confrontation avec Lyon qui est capable au retour d'espérer quelque chose. Voilà.
Que ce soit pas plié au bout de 10 minutes.
Pour vous, ce dont je suis sûr, c'est que Lyon va jouer. Lyon, c'est pas une équipe qui sait tenir le score. C'est bien presque son souci d'ailleurs. On l'a souvent reproché en championnat. Lyon va aller de l'avant. C'est le risque. Vous aimez bien après de laisser aussi des vagues.
Si tu veux encore donner des motifs de rêver, t'as un facteur X. C'est Genesio. Genesio, personne savait qu'il allait sortir ça à Manchester City en mettant Cornet Diop. Il a gagné là-bas.
Il a juste battu Guardiola, Tuchel cette année. Il est juste
capable ce soir de faire un truc que personne n'a prédit, de titulariser un joueur que personne pensait, de faire un système que t'as pas vu et de gagner comme ça. Ça aussi, Genesio, faut lui faire confiance.
Mais pourrait titulariser Fred. Vous êtes dispo, Fred? Fred, ce soir?
Ouais, j'ai juste à prendre le train là.
Dans quel système de jeu? Dans quel système de jeu?
Non, il faut que je joue tout seul devant.
La ligne Paris-Lyon là ces derniers temps par le TGV, c'est pas terrible. Attention. Bon, puisqu'on en est là et à prendre des risques, les pronostics pour ce soir.
Ah bah oui. Bon, moi je joue Lyon pour le plaisir. 2-1.
2-1, je ne note pour Nabil. 2-1 pour Lyon.
2-2.
2-2 pour Salim.
Du spectacle.
Ah ouais, toi tu vois.
3-1 pour Barcelone.
3-1 pour
attention
Barcelone.
Fred. Attention Fred.
Ça c'est Naïm.
Moi je vois un partout.
Et on a à peu près tous les scores. Hein, voilà. c'est noté.
Et vous Christophe?
Bah écoutez, moi je vois bien un petit 2 partout.
Ouais. Anime envoie un texto 1-0 pour Lyon.
D'accord. On veut qu'elle soit encore un peu lucide malgré la maladie.
Elle l'est.
Allez, c'est ce match donc Lyon-Barcelone que l'on suivra ce soir en direct sur les antennes de RFI, toutes les antennes de RFI. Prise d'antenne donc à 19h55 temps universel, 5 minutes avant le coup d'envoi, et ce sera avec les commentaires de Christophe Diremzian et d'Olivier Pron. Ouais, Lyon-Barcelone, c'est bien, mais Liverpool-Bayern de Munich,
c'est pas mal aussi.
C'est pas mal non plus. C'est une affiche parfaitement crédible en finale de la Ligue des Champions. Ah bah oui. Avec un Liverpool, d'abord, finaliste justement de la dernière Ligue des Champions, mais qui a pas mal de problèmes dans son effectif.
Beaucoup d'absences,
Salim. On va dire.
Oui, ben c'est vrai qu'il y a des absences.
Faisons l'appel.
Mais notamment, surtout, une absence clé capitale, Virgil van Dijk. Quand vous avez
le patron défenseur, de la défense.
Quand vous avez le défenseur le plus cher du monde qui n'est pas là, ben tout d'un coup, ça change un petit peu votre défense.
C'est l'équivalent de ça là pour moi.
Exactement. Voilà, offensivement et défensivement, vous avez ce joueur si important. Donc lui, pas là. Vous allez sans doute potentiellement mettre Fabinho en défense centrale aujourd'hui. Fabinho en défense centrale, non pas qu'il soit mauvais, mais ça vous change quand même un petit peu les choses avec assez côté sans doute Joël Matip aussi en défense centrale. Donc Fabinho Matip, c'est pas Van Dijk Matip, c'est pas Van Dijk Lovren. Ça change énormément de choses dans cette défense.
Alors on a Van Dijk qui est suspendu. On a Joe Gomez qui s'est cassé la cheville au mois de décembre et qui est encore en train de la soigner.
Tout à fait.
Et Lovren qui est incertain.
Très incertain même. C'est pour cette raison que je parle de Fabinho Matip ce soir. Et encore une fois, ni Van Dijk ni Lovren, donc vos deux titulaires qui sont remplacés, ça change énormément de choses. Et pour le coup, ça demande de la stabilité et une défense. Et là,
vous avez la communication. C'est un secteur de jeu quand même important. La défense centrale
devant
avec le
Lewandowski, quoi, tu vois.
Tout à fait.
Tu as Lewandowski, tu auras Müller juste derrière. La qualité de centre aussi de Joshua Kimmich qui peut jouer à droite. Alcantara qui rentre. Grosse
armada.
Ouais, gros forfait, vraiment très mauvaise nouvelle pour Liverpool. Alors après Liverpool, ils vont jouer comme ils ont l'habitude, ils vont mettre le pressing haut dans la moitié de terrain adverse, ils vont aller à 2000 à l'heure, on va les voir courir partout, ça va être très puissant. Et ils sont ce qu'on a vu contre le PSG au match aller, de toute façon, ils peuvent marquer des buts contre n'importe qui, mais c'est vrai que l'absence de Van Dijk, quand on parlait d'écart qui se resserre un petit peu là, il y a deux minutes avec Barcelone-Lyon, ça joue quand même.
Mais une question, Salim, vous qui êtes un observateur averti de la première ligue comme Fred, est-ce que vous pensez que Liverpool, c'est une théorie qui tourne, serait plus axé finalement sur la première ligue qu'elle n'a pas remportée depuis 30 ans, et finalement, même s'ils sont finalistes quelque part, parce que moi j'arrive pas à me situer, je me dis que la meilleure des vitamines c'est de gagner et que ça crée une dynamique et ça te permet d'impliquer un maximum de joueurs sur deux compétitions, mais même lors du tour de poule, on se disait bon, Liverpool, ils sont peut-être moins bien parce que finalement, ils sont complètement obsédés par cette première ligue.
C'est clairement le cas. Ils sont obsédés par la victoire. Donc quoi qu'il arrive, ils vont jouer les deux coups à fond. En off, avant cette émission, on parlait notamment d'Europa League, du cas Chelsea. Hein. Est-ce que Chelsea va tenter un all-in entre guillemets sur l'Europa League en se disant bon, on laisse tomber le championnat et on essaie de gagner l'Europa League pour se qualifier pour la Champions League la saison prochaine. Liverpool ne peut pas se permettre de se dire bon, allez, on laisse tomber la Champions. On mise tout sur le championnat. Enfin, en championnat, je vous rappelle qu'il y a United-Liverpool ce week-end. Si Liverpool vient à perdre, City sera officiellement devant Liverpool avec le même nombre de matchs. Donc Liverpool ne peut pas se dire, bon, on va tout calculer et tout miser sur le championnat et lâcher la Champions ou vice-versa. club, c'est pas sa politique. Ouais, club va pas s'entraîner.
En fait, c'est très britannique comme état d'esprit, ça. La première ligue avant la Coupe d'Europe.
Exactement. Certes, Liverpool, et certains, même beaucoup de supporters de Liverpool aujourd'hui se disent, on veut cette première ligue, ça fait 29 ans qu'on ne l'a pas.
Mais le peuple la demande.
Mais club va pas penser ainsi, sûrement pas. Lui, il veut jouer les deux compètes à fond.
Ouais. Frédéric, vous voyez ça comment, vous?
Moi, mais personne, quand t'es joueur, entraîneur.
Il y a pas de débat.
Tu peux pas te dire, oui, non, je vais jouer celle-là, je veux cette compétition parce que, mais non. Là, c'est vrai qu'ils sont premiers championnat, et ils veulent le rester, en discutant un petit peu même avec les anciens de Liverpool, c'est ce genre de, enfin, le championnat anglais, il a quand même une saveur particulière. Et souvent, il y a plein de joueurs aussi qui disent que je préfère gagner la première ligue que de gagner la Ligue des Champions, par exemple. Mm-hmm. Mais pour les entraîneurs, je pense que la Ligue des Champions, elle est quand même très importante, et pour un club aussi. Donc voilà, ça balance. Mais en tout cas, on peut pas, en tant que joueur et entraîneur, on peut pas occulter les deux compétitions.
Et juste tout à l'heure, on parlait de fraîcheur de certaines équipes. Je rappelle que Liverpool, ça fait 10 jours qu'ils ont pas joué. Donc là, ils vont pas se dire, bon, ça fait 10 jours, on est bien reposé, mais on va lâcher le championnat, on va lâcher la Champions pour se concentrer sur United Liverpool. Non. Et justement, ils ont eu 10 jours de repos, ils ont même fait un mini stage. Donc ils sont bien frais, bien prêts pour ce match ce soir, ils vont pas le lâcher. Ouais.
Est-ce qu'ils vont tout perdre encore comme la saison dernière, Liverpool? Est-ce que, à l'image
c'est
d'un souci. Sadio Mané, toujours deuxième,
bien sûr.
Ça va être encore un coup à la
On parlait de Monaco il y a quelques saisons aussi, pareil.
Ouais, c'est vrai.
On parlait, est-ce qu'ils vont gagner la Ligue des Champions? Le championnat? Est-ce que c'est la Coupe de la Ligue? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses qui, en fait, ils ont gagné le championnat. Et puis c'est tout.
Après, ce qui est excitant, c'est aussi le Bayern. Hein,
ouais, on va en parler du Bayern. On en a le temps. Juste un mot supplémentaire sur Matip. Joël Matip, germano-camerounais, international camerounais. Il en est où là dans son histoire avec Liverpool? Là, c'est parce que là, il est plongé dans le bain bouillonnant de la Ligue des Champions. Ah ouais. Et les conditions sont vraiment très très compliquées.
Le problème, c'est que pour lui aujourd'hui, il est numéro 3 voire numéro 4 en fait en défense centrale. Donc je lui disais Van Dijk et Lovren évidemment qui sont les titulaires indiscutables. Même au final, Fabinho a déjà été testé cette saison en défense centrale avec cette équipe de Liverpool. C'était d'ailleurs plutôt bien passé avec lui. Matip, il n'a fait que quelques remplacements, mais il faut le dire, déjà physiquement, début de saison, il était blessé. Ensuite, donc, il a pu jouer rarement avec cette équipe de Liverpool. Donc, aujourd'hui, il a la plus grosse titularisation de sa saison avec Liverpool, sans, au final, avoir beaucoup joué avec ses Reds. Donc, il va être plus qu'observé aujourd'hui, mais c'est un très gros pari, et au final, le seul pari qui est possible pour Klopp aujourd'hui.
Et puis, Naby Keita aussi, il va falloir regarder, parce que, bon, cette première saison, quand même, sans être mauvais, il a quand même pas un temps de jeu terrible.
Après, il a été blessé aussi cette année.
Il a été blessé, c'est vrai. Donc là, c'est quand même un gros match pour lui, dans son futur à Liverpool, pour s'installer définitivement au milieu de terrain, parce que c'est quand même fou que ce garçon, avec la qualité qu'il a, ne finisse pas par s'installer dans cette équipe. Ce genre de rendez-vous ce soir, ça fait quand même, ça fait date quoi, et il faut qu'il marque les esprits de son entraîneur. Bah, et il manque il manque quand même non, au milieu, c'est qui? C'est il va mettre Henderson, Keita, et parce que si Fabinho va jouer en charnière centrale, ça veut
non,
dire
qu'il y a Mignor,
Henderson,
soit les latérales droits, soit les au milieu.
Voilà, Henderson, Wijnaldum, Keita.
Ouais. Et le truc, c'est que après, c'est la théorie de Klopp, et au final, il le fait plutôt bien. Il a 5 milieux de terrain aujourd'hui possible pour être aligné à chaque rencontre. Mmh. Donc il aime bien faire tourner, c'est ce qu'il apprécie au final Jürgen Klopp. Donc ne pas mettre Naby Keita, c'est pas forcément un souci pour lui. Rappelez-vous, en début de saison, Fabinho, on disait, oh là, il joue plus, peut-être qu'il va être prêté. Au final, petit à petit, il a pris le temps de l'intégrer, et aujourd'hui, il va même jouer en défense centrale, mais Fabinho est devenu un joueur important de cette équipe. Pour Naby Keita, je m'inquiète pas, ça a plutôt bien démarré, il s'est un peu blessé, il est revenu petit à petit, mais ça prend du temps, mais il va
après,
intégrer
Keita,
cette équipe.
Après, Keita, il connaît la Bundesliga, alors je sais pas si ça rentre dans l'esprit d'un entraîneur, mais il sait que c'est un joueur qui a déjà joué. Tu penses que ça rentre?
Oui, oui.
Parce qu'il les a joué plein de fois, lui, à Leipzig.
Ouais. Très souvent, dans l'esprit du coach, justement, t'as déjà joué dans certains clubs, dans un certain championnat, bah tiens, je te remets.
Ouais.
C'est-à-dire que voilà, je te fais confiance.
Et puis il a fait des gros matchs, Keita, contre Bayern.
Je te fais confiance et que t'as l'expérience de ce championnat, tu connais
les joueurs,
donc je te mets dans l'équipe.
Bon, bah, il sera titulaire. on fait un pari.
Pourquoi pas. dans la même logique, Jürgen Klopp connaît évidemment le Bayern comme
sa poche.
Comme sa poche, voilà. Merci Naïm. est-ce que ça peut aider beaucoup Liverpool ce soir, ou bien c'est
Une vue de l'esprit.
Moi, je pense qu'à ce niveau-là, tout le monde connaît tout le monde. Ouais, je veux dire.
Aujourd'hui, on peut, c'est plus comme 10 ans en arrière, ou même 20 ans en arrière, où il n'y avait pas
les vidéos,
il n'y avait pas les. Voilà. Aujourd'hui.
Non, mais dans la mesure aussi où il a une histoire. Tout est analysé. Avec ce club, face à ce club, la finale, évidemment, de la Ligue des Champions, perdue en 2013.
Au-delà des joueurs qui ont, pour certains, la plupart d'ailleurs, qui ont quand même changé, à l'époque, le Bayern avait un entraîneur qui faisait bien jouer au foot. C'était très compliqué de les prendre. Aujourd'hui, t'as quand même Müller qui s'est globalement éteint. Après, il connaît bien Lewandowski, ça, c'est vrai que ça peut aider. Parler à ses défenseurs centraux, il connaît les appels, il connaît ses mouvements, il sait son jeu. Après, à ce niveau-là, je vais dire, oui, tout le monde connaît tout le monde, et puis le Bayern a quand même énormément changé depuis.
Alors, le Bayern, on va en parler. Il a aussi des problèmes d'effectifs, même si c'est pas forcément dans les proportions de Liverpool. Boateng malade, Tolisso et Robben qui sont absents. Müller, dont vous parliez, Naïm, qui est suspendu.
Ah oui, il joue pas Müller.
Voilà. Ribéry qui est revenu très tardivement, là, qui a rejoint le groupe dans la nuit de dimanche à lundi.
Il va accoucher d'un gros match, Ribéry.
Mais, le Bayern, qui avait commencé ce championnat d'Allemagne dans la difficulté, est sur la pente ascendante.
Il y a une seule défaite depuis le 10 novembre, c'était Dortmund. Mon micro fait un bruit chelou d'ailleurs là. Il y a une seule défaite depuis novembre. C'est vrai que ça va un peu mieux en 2019, malgré le revers contre Leverkusen. S'ils se remettent à gagner, ça prend moins de buts. On a revu certains joueurs retrouver leur niveau. Ils ont récupéré des blessés aussi. Kingsley Coman, qui a marqué un doublé ce week-end. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux. Je reste sur les positions, sur le fait que Kovac et le Bayern, pour moi, c'est pas compatible, pas sur la durée en tout cas, mais c'est vrai que c'est quand même mieux, mais c'était difficile de faire pire en même temps.
Après, alors certes, on parle de résultats à juste titre, mais il faut rappeler que c'est la presse allemande qui l'a beaucoup évoqué après le match de ce week-end, la fameuse altercation qui a existé entre Thiago Alcantara et Kovac, et notamment le lendemain, lorsqu'il y a eu cet entraînement des remplaçants de cette rencontre, ces remplaçants étaient en colère apparemment de ne pas voir Kovac à cet entraînement-là, mais Kovac a envoyé l'un de ses adjoints en fait gérer l'entraînement en question. Donc on parle de remontada, c'était le terme qu'on a utilisé effectivement au classement, mais l'ambiance n'est peut-être pas si exceptionnelle que ça, quand même, autour de Kovac.
C'est pas exceptionnel du tout, même d'ailleurs. Mais c'est un peu souvent le problème avec les entraîneurs qui sortent du cadre bavarois. C'est-à-dire que le Bayern, les entraîneurs, et c'était le cas aussi avec Guardiola, ils ont la liberté de mettre leur jeu, mais à l'intérieur d'un cadre bien défini. J'ai l'impression que Kovac, pour d'autres raisons que Guardiola, sort un peu de ce cadre et ça ne matche pas avec les cadres, avec les stars du vestiaire. Ça n'a pas l'air de matcher non plus beaucoup avec Rummenigge. C'est pour ça, c'est sa première saison. On sait pas ce que ça va donner à l'avenir. Ça se trouve, il va rattraper Dortmund. Ça se trouve, il va gagner la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que sur son avenir, ne serait-ce qu'à moyen terme au Bayern, je suis quand même très sceptique.
On va l'écouter, Niko Kovac. Avant, à la veille de ce match, il était en conférence de presse. Il a esquissé la façon dont il voyait, dont il imaginait ce huitième de finale aller à jouer ce mardi soir à Liverpool.
L'ambiance sera géniale, évidemment, tout le monde le sait. Mes joueurs ont déjà vécu des rencontres difficiles avec de grandes ambiances dans d'autres stades, donc ça n'est pas une excuse pour justifier notre performance. Je tiens à préciser au sujet de cette rencontre que l'on ne verra pas un 0-0. Je n'arrive pas à l'imaginer.
On ne verra pas un 0-0. C'est ce que vous pensez aussi?
Ouais, on verra pas. Non,
il y aura des buts. Ah oui, enfin, c'est comme Lyon-Barça. Hein. Là, c'est sûr, c'est assuré. Klopp, c'est pas quelqu'un qui. C'est comme Lyon au final.
Ça
c'est
pas.
Presque parfois le souci de Liverpool qui ne sait pas tenir un score, qui y va. Et puis de l'autre côté, Bayern, je vois pas le Bayern quand même jouer le 0-0. Pas avec ces joueurs-là, non.
C'est pas. Et puis non, puis surtout qu'en plus, le Bayern a pas non plus la certitude de se qualifier à domicile. Ils prennent des buts à domicile, ils perdent des matchs à domicile. Donc c'est aussi pour eux l'opportunité de prendre un petit avantage et d'aller marquer à Liverpool. Après, quand vous jouez avec Lewandowski, Alcantara, vous avez un mec comme Joshua Kimmich sur le côté droit, que vous avez Rames sur le banc, Goretzka, Coman, vous avez quand même des armes offensives pour marquer. Jouer les 0-0, c'est pas dans la nature du Bayern en général, et sur ce match-là encore moins.
Moi, je vois le Bayern se qualifier. Alors on est encore loin de l'issue, mais je pense que le Bayern de Munich va.
Non, mais c'est pas idiot de le penser.
On en reparle. je le pense. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Franck Ribéry. On ne sait pas s'il sera sur le terrain, mais quel joueur fantastique, quelle longévité. Une telle explosivité, un tel jeu en rupture, tel sens du jeu à son âge. Bon, moi, ça me laisse sans voix. Et alors, je ne sais pas s'il sera sur le terrain, s'il rentrera en cours de match. Je ne sais pas qui sera le latéral droit du côté de Liverpool, mais il va faire un bon cardio.
On termine avec les pronostics. Allez hop, les pronostics pour Liverpool, Bayern Munich. Salim d'abord.
3-1 Liverpool.
3-1 Liverpool.
De partout.
De partout pour Naïm. Ouais, beaucoup de buts hein, dans tous les cas.
2-1
Frédéric.
Liverpool.
2-1 pour Liverpool. Et Nabil.
2-0 Bayern de Munich.
2-0 Bayern de Munich. Eh ouais.
Une grosse victoire extérieure.
Ouais, ouais, bah, tranquille. C'est des intuitions.
Pour le match retour.
Ou alors, sinon, je dis 0-0, non, si vous voulez. Comme ça, on pourra se moquer de Kovac. C'est ça, la vie, hein. C'est des choses comme ça.
Mais j'attends vraiment le duel entre Alexander Arnold et Ribéry. Ça peut être vachement
intéressant. Si c'est lui, sinon, on parle de Gnabry sur un côté, Coman de l'autre. Comment? Qui est aussi un joueur fantastique également. Mais moi, j'aimerais bien voir aussi Franck Ribéry sur ce match. Et attention à, on n'en parle plus beaucoup, mais attention à James Rodriguez si ce soir il est sur le terrain, très précieux aussi sur coup de pied arrêté.
Allez, on suit ça ce soir en même temps, pointillé, en même temps que ce Lyon
Barcelone
en direct sur RFI.
Radio Foot International.
Christophe Jousset.
Allez, il nous reste quelques minutes pour évoquer ce match qui s'est joué ce lundi soir en Coupe d'Angleterre entre Chelsea et Manchester United. Victoire 2-0 pour Manchester United qui revient avec un grand Pogba sur des performances de haut niveau. Les Blues, Frédéric, se sont fait un peu bouger là. Ils n'ont pas vraiment
assisté. Ça fait deux fois de suite. Hein. Ouais. Ça fait deux matchs de suite où ils se font bouger et ils prennent beaucoup de buts en fait en ce moment. Et mis à part le match contre Manchester City quand même, ils en prennent 6, mais avant ils en avaient pris 4 à Bournemouth quand même. Ouais, c'est pas une équipe
Mais tu penses que les joueurs ils l'ont un peu lâché, l'entraîneur, pas pour dans les
non,
attitudes
lâché,
toi
lâché non, mais je pense qu'il y a une friction après le match de Bournemouth, surtout quand Sarri il a dû prendre ses joueurs entre les quatre murs du vestiaire. Je pense qu'à partir de
ils
là
ils sont restés 45 minutes dans le vestiaire hein.
Je pense que là il y a une cassure,
ouais.
Une grave cassure, parce que malgré tout le match contre City, bon, les 6-0, on va dire que c'est pas mérité, mais voilà, on n'a pas senti une équipe, pas de leader, pas d'âme. Mm-hmm. Et là encore hier soir pareil, ça a été une équipe totalement fantomatique.
Après je me permets de faire une remarque à Frédéric, vous avez connu peut-être des coachs qui ont tenu des mots comme ça à vous, peut-être à des joueurs. Sarri il a quand même tenu des mots très durs hein, après certains rencontres, notamment le Bournemouth c'est le 4-0. Les joueurs ils sont touchés par ce genre de propos?
C'est pas qu'on est touché par ce genre de propos, c'est que ça va dépendre du joueur en fait. Et là j'en profite pour dire que je suis en formation de coach, et dans ces formations en fait on a des modules de la connaissance de soi et surtout comment gérer les conflits avec de vestiaire ou quand un match se passe mal, etc. Et je pense que c'est là où psychologiquement les coachs ils doivent être très très forts. Je pense pas que après un match quand t'as pris 4-0 t'as pas envie que le coach il vienne et te prenne la tête. Ouais.
45 minutes.
C'est pas le bon moment, quoi.
Surtout quand on a des égos aussi forts qu'un vestiaire de Chelsea. On n'est pas à Bournemouth, on n'est pas à West Ham, on n'est pas dans des équipes comme beaucoup moins fortes, au niveau des égos pour ça. Et je pense qu'à partir de là, voilà, le coach s'est mis une partie du vestiaire à dos.
Dans le prolongement de la question de Salim, est-ce que t'as déjà connu des entraîneurs qui, 6 mois après leur arrivée, disent, moi, j'arrive pas à motiver mes joueurs?
Ah non, pas du tout.
Parce que c'est quand même extraordinaire ce qu'il a dit.
Ça, il s'est tiré une balle dans le pied.
Ouais, tout simplement. Il s'est tiré une balle dans le pied avec Eden Hazard également. Puisqu'il a fait une sortie. Puis il a ménagé le chou et la chèvre avec Eden Hazard, mais au bout d'un moment, il a lâché les chevaux. Parce que une des raisons également de sa venue, c'était que Eden Hazard reste. Du côté de Chelsea. On peut le comprendre, hein. Il a envie d'avoir des résultats, donc il veut forcément les meilleurs joueurs. Mais il en est revenu comme beaucoup d'autres coachs, parce qu'Eden Hazard, à l'entraînement, c'est un joueur de CFA. Et parfois, en match, c'est un joueur de Ligue des Champions.
Il l'a dit de toute façon.
Ouais, voilà.
Il a dit
moi je rends mes entraîneurs fous. Et quand vous avez des gars aussi rationnels, presque parfois psychorigides, parce que ça vire à la psychorigidité, quand vous jouez Manchester City et que t'as pas le ballon, tu sais que tu l'as pas, comment tu m'expliques que tu laisses N'Golo Kanté milieu relayeur presque ailier, quoi? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a aussi lui peut-être, alors je vais pas lui apprendre son métier, peut-être il faut aussi se remettre en question. Alors les joueurs doivent se remettre en question, il y a pas de souci, mais lui sur son schéma de jeu, parfois c'est complètement inopérant. Jorginho comme meneur de jeu face à Manchester City, ça sert à rien. Tout le monde a compris comment battre Chelsea. C'est Tottenham qui a donné la recette. Tu neutralises l'ami Jorginho, t'en colles un ou deux sur lui, c'est terminé.
Après, il va falloir quand même que Chelsea prenne une décision rapidement, parce que les supporters ont demandé la démission de l'entraîneur. Il y a des problèmes avec certains joueurs, le club est en vente. Donc à un moment donné, si tu fais pas la Ligue des Champions l'année prochaine, c'est quand même un petit peu problématique. À mon sens, il reste une semaine pour Sarri inverser les choses. C'est Manchester City en finale de League Cup ce week-end et Tottenham mercredi prochain en championnat. Si tu gagnes pas un titre ou si t'es pas capable de battre une équipe du Big Four pour essayer de continuer de faire une qualification en Ligue des Champions, ça va être très compliqué de garder cet entraîneur.
Ouais, il y a un grand rendez-vous donc dimanche, cette finale de Coupe de la Ligue pour Chelsea face à Manchester City et le feuilleton Sarri qui continue. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci Frédéric Piquion. Merci Salim, Nabil et Naïm. Merci aussi à David Finzel, Pierre Guérin, Laurent Salerno et à demain pour la suite.